Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un recours plus facile et élargi aux contractuels, voilà ce que prévoit entre autres le gouvernement pour réformer la fonction publique. La notion de rémunération au mérite serait également évoquée. L'avant-projet de loi est présenté ce matin, nous y reviendrons. Dans ce journal, vous comprendrez pourquoi Google écope d'une amende de 30 000 euros pour des clauses abusives. Nous irons aussi au Venezuela où les habitants à la frontière avec la Colombie espèrent l'arrivée rapide d'une aide humanitaire. Et puis en Floride, aux États-Unis, un an après la tuerie de Parkland dans un lycée, portrait à suivre d'une lobbyiste de 80 ans qui semble convaincre de nombreux élus. La réforme de la fonction publique sera donc présentée ce matin lors d'une conférence de presse aux journalistes. Mais via les syndicats, on en connaît les grandes lignes, puisqu'ils étaient conviés hier à Bercy pour découvrir cet avant-projet de loi de transformation de la fonction publique. Les calculs des rémunérations des fonctionnaires ne seront pas modifiés. Le gouvernement maintient son objectif, supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. Et puis surtout, il va recourir plus largement au contrat privé, Delphine Simon.
Le texte ouvre très largement le recours aux contractuels afin d'apporter de nouvelles compétences dans la fonction publique. Des contrats de projet d'une durée de 6 ans maximum pourront être créés sur le modèle des contrats de chantier du privé. Le texte ouvre aussi la possibilité de rupture conventionnelle réservée aux contractuels. Ce mécanisme sera expérimenté à partir de 2020 par les fonctionnaires de l'État et des hôpitaux. Autre nouveauté, le temps de travail des fonctionnaires territoriaux. Fini les dérogation à la durée légale, régulièrement épinglée par la Cour des comptes. Enfin, le projet de loi prévoit de sécuriser les parcours professionnels des fonctionnaires, notamment en cas de plan de départ volontaire. Si la CGT dénonce un catalogue du pire, force ouvrière une mascarade, le secrétaire d'État Olivier Dussopt invite les syndicats à amender ce texte de 33 articles. Une simple posture, répondent les 9 organisations. En plein débat national, elles dénoncent, comme la FSU, un calendrier accéléré et des pistes déjà bouclées. Il reste à peine une dizaine de jours pour l'amender.
Le gouvernement espère voir ce texte adopté d'ici l'été. Il est attendu à 11h tout à l'heure à la mairie de Gargilès-Dampierre avant de s'entretenir avec des maires de l'Indre et des chefs d'entreprise. Emmanuel Macron poursuit ses déplacements, ce jeudi encore donc, à l'occasion des grands débats nationaux. Un an de prison ferme aménageable. Christophe Détinger a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Paris, condamné pour s'en être pris à 2 gendarmes début janvier à Paris en marge d'une mobilisation des Gilets jaunes. Il a également l'interdiction de séjourner à Paris et de participer à des manifestations pendant 6 mois. Elle préfère finalement jeter l'éponge. La gilet jaune Ingrid Levavasseur abandonne la liste du ralliement d'initiative citoyenne. Elle entendait la mener pour les élections européennes. Elle abandonne donc. Nous en venons maintenant à cette décision de justice où quand l'association de consommateurs UFC Que Choisir fait plier Google, le géant américain a été condamné hier à verser 30 000 euros à l'association, condamnée pour le caractère abusif de certaines de ses clauses contenues dans ses conditions générales d'utilisation ainsi que dans les règles de confidentialité. Raphaël Bartholomé est juriste à l'association de consommateurs. Il explique cette décision.
Le tribunal impose à Google de rappeler que la finalité première, c'est la collecte et l'exploitation à des fins commerciales des données personnelles. Parce que vos mails sont analysés et éventuellement vous évoquez un sujet particulier, eh bien, comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, vous allez avoir des bandeaux publicitaires en lien avec vos mails. Clairement, c'est un électrochoc pour que Google, un, soit plus transparent sur les informations, deux, transforme vraiment la façon dont il cherche à obtenir l'accord du consommateur. Prenons l'exemple de la géolocalisation permanente de l'ensemble des utilisateurs. Quand je m'inscris sur Google, j'accepte en une fois et de façon globale l'ensemble des conditions d'utilisation et des règles de confidentialité. Ce que nous dit le tribunal, c'est que cette méthode n'est pas la bonne. Google doit obtenir des consentements spécifiques pour toutes les finalités d'utilisation et d'exploitation des données. Il y a une réalité, c'est l'exploitation économique des données personnelles, mais cette réalité-là, elle ne doit pas être par défaut aux dépens du consommateur. Le consommateur a des droits, Google doit s'assurer pour chaque finalité d'obtenir un accord express des consommateurs, quitte à devoir cocher 25 cases. C'est ça l'important.
Précisons que Google peut encore faire appel de ce jugement. Et puisque l'on évoque les géants du numérique, ils s'inclinent face aux décisions européennes. Hier soir, un accord sur le droit d'auteur a été trouvé entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen. Il vise à mieux protéger et mieux rémunérer les auteurs de contenu face aux plateformes de diffusion. En bref encore, peut-on parler d'un accident industriel? En tout cas, l'A380 d'Airbus qui a coûté des milliards d'euros et lancé en 2005, cet A380 sera abandonné faute de commandes suffisantes. Ce matin, le principal acheteur de cet avion géant, la compagnie Emirates, annonce qu'elle renonce à acheter 39 A380. Les livraisons d'Airbus cesseront définitivement en 2021. Donald Trump répète qu'il étudie encore toutes les options face à la crise politique et humanitaire au Venezuela. Il souligne que le président élu Nicolas Maduro commet une terrible erreur en empêchant l'aide humanitaire internationale d'entrer au Venezuela. L'opposant Juan Guaido a lui déjà annoncé qu'il laisserait rentrer cette aide humanitaire des Américains le 23 février prochain, et cela malgré le blocage du gouvernement actuel. À la frontière avec la Colombie, les habitants espèrent que cette aide pourra arriver. C'est ce qu'a constaté Benjamin Delisle.
Comme chaque matin, des milliers de Vénézuéliens affluent pour traverser le pont Simón Bolívar vers la Colombie. Tous vont s'acheter de la nourriture et des médicaments qu'ils ne trouvent plus ici. Tous aussi affirment attendre l'aide humanitaire de pied ferme. Tous, encore, comme Carolina, 22 ans, condamnent le blocage.
Je n'aime pas trop la politique, mais il faut voir les choses en face. Je pense qu'il y a des personnes aveugles, le gouvernement. On dirait qu'ils n'acceptent pas la réalité, que la situation au Venezuela est critique, qu'on va mal.
Dans la ville de San Cristobal, à une heure de là, le docteur Alexis Sanchez représente l'association Médicos por Venezuela. Il doit organiser la marche vers la frontière le 23 février prochain.
L'idée, c'est de mener une action assez tôt pour nous en aller au bon moment, parce que nous ne voulons ni exposer nos patients, ni aucun de nos activistes.
Pas de confrontation violente, donc, mais un coup médiatique pour révéler au monde des mois d'enquête sur la situation sanitaire au Venezuela.
L'aide humanitaire internationale concerne des groupes vulnérables, des personnes dont il est établi qu'elles sont prioritaires parce que leur vie est menacée.
Selon lui, le 23 février sera un tournant, même s'il l'aide n'entre pas, car le monde prendra conscience de l'ampleur de la crise humanitaire au Venezuela.
Le groupe État islamique oppose plus de difficultés que prévu en Syrie. Les combattants kurdes et arabes avaient pourtant annoncé une victoire rapide. Mais la progression des forces démocratiques syriennes est assez lente, Étienne Monin.
Dans la base qui sert de camp au service de presse des Kurdes et aux journalistes internationaux, les ouvriers terminent l'installation du lieu de la célébration avec une scène en planches et en moellons, des porte-drapeaux fixés sur de lourdes jantes de voitures et des marqueurs au sol blanc comme la couleur des murs qui viennent entièrement d'être repeints. Mais le décor contraste encore avec la ligne de front. Hier, l'intensité des combats semblait limitée. La résistance de Daesh est importante. Adnan Afrin, l'un des commandants kurdes des forces démocratiques syriennes. Jusqu'à présent, elles résistent encore bien, mais c'est sûr, ils vont tomber devant notre force. Notre problème principal, ce sont les mines, et ensuite il y a les kamikazes et les voitures piégées. C'est cela qui pose problème aux camarades. Les Kurdes disent aussi vouloir épargner les civils. Le nombre à l'intérieur de Baghouz est plus élevé qu'initialement estimé. Selon les sources, mardi, entre 1300 et plus de 2000 personnes se sont livrées à l'Alliance arabo-kurde.
Étienne Monin, envoyé spécial de France Culture en Syrie. Nous en venons à cette triste commémoration. Il y a un an, le 14 février 2018, 17 personnes étaient tuées dans un lycée de Parkland en Floride aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, des dizaines de milliers de jeunes Américains descendaient dans les rues pour réclamer un meilleur contrôle des armes à feu. Un an plus tard, où en est-on? La législation n'a que très peu bougé. La faute à une femme, Marion Hammer. Son portrait est signé Grégory Phillips.
Dans les couloirs du Capitole de Tallahassee, on croise presque chaque jour la silhouette de cette petite dame, 1m50, et son éternelle coupe au bol. Marion Hammer aura 80 ans dans deux mois. L'ancienne dirigeante nationale de la NRA n'est pas une élue, mais depuis deux décennies, elle est à l'initiative d'une trentaine de lois pro-armes adoptées par le Parlement de Floride. On dit de cette lobbyiste qu'elle fait et défait les carrières, par exemple en notant les élus en fonction de leur engagement à défendre ou non le Second Amendement qui garantit la liberté d'être armé. Ces notes vont de A à F et sont consultables par tous. Moi, je suis A+, explique le sénateur républicain Dennis Braxley. Je n'ai jamais voté une loi qui restreint l'accès aux armes. Je pense qu'une arme, c'est juste un objet. Ce n'est pas ça qui fait mal. Et moi, comme note, j'ai reçu F-, que je porte comme une médaille, dit Carlos Guillermo Smith. L'an dernier, le représentant démocrate a réussi à faire passer cette loi qui, en Floride, relève l'âge minimal pour acheter une arme de 18 à 21 ans. Si ces dernières décennies, on n'a pas été capable de passer la moindre loi importante sur le contrôle des armes en Floride, c'est parce que les républicains ont été pieds et poings liés avec le programme de Marion Hammer. Mais je pense que depuis Parkland, depuis l'an dernier, elle a un peu moins de pouvoir au sein de ce Parlement. Et c'est bien. Les survivants de Parkland ont lancé cette semaine une pétition pour réclamer l'interdiction de la vente des fusils d'assaut en Floride et la tenue d'un référendum local sur le sujet. Mais Marion Hammer, Mamie Gunn, utilisera sans aucun doute tout son poids et son influence pour faire en sorte que cela n'arrive pas.
Ce jeudi en France sera une belle journée ensoleillée et douce. Comptez 3 degrés à Strasbourg, Lille, Lyon, 4 à Paris, 7 degrés à Bordeaux, 11 à Nice ce matin.